With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer ce podcast, je vais vous demander de bien tendre l'oreille, de réajuster vos écouteurs. Vous allez entendre une archive qui va vous sembler bien lointaine, ou pas tant que ça. Nous sommes en septembre 2011 à Benghazi. La ville est recouverte d'affiches avec le drapeau français et le visage de Nicolas Sarkozy. Trois semaines après la chute de Muammar Kadhafi, le président est l'un des premiers chefs d'État à se rendre en Libye.
Vous avez démontré votre courage. Aujourd'hui, vous devez démontrer un nouveau courage, celui du pardon et celui de la réconciliation.
David Cameron, le Premier ministre britannique, est également du voyage. Lui aussi a largement contribué à la fin du régime. Mais la fièvre populaire est réservée au président français. Ce sont ses avions qui ont sauvé la ville des chars de Kadhafi. À ce moment-là, en Libye, des bébés sont même prénommés Sarkozy.
L'amitié entre la France et la Libye.
Au moment où j'enregistre ce podcast, 10 ans plus tard, la réconciliation appelée de ses voeux par l'ex-président français n'a jamais eu lieu. La première élection présidentielle libyenne depuis la Révolution doit bien se tenir en décembre, mais elle pourrait mener au chaos aux portes de l'Europe et le rôle de la France dans cette situation explosive est pointé du doigt. Vous n'êtes peut-être plus très au point sur le dossier et on ne vous jette pas la pierre parce qu'il est complexe, qu'il passe sous les radars depuis des années, mais en un épisode, je vous promets que vous allez vous remettre à niveau et comprendre pourquoi l'avenir de la Libye nous concerne tous. Si je vous fais cette promesse, c'est parce que je suis accompagné de notre spécialiste de l'Afrique, Charlotte Lalanne, du service Monde de l'Express. Salut Charlotte.
Salut Xavier.
Je te propose de commencer cet épisode par un tour d'horizon des candidats à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu donc au mois de décembre en Libye.
Oui, alors il va falloir t'accrocher un petit peu, Xavier, okay. Parce que le casting de ce scrutin donne un peu le vertige. 90 candidats déclarés selon les sources. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas tous te les lister, mais enfin il y en a trois en particulier qui inquiètent au plus haut point. Je te parle du premier, peut-être.
Allons-y.
Il s'appelle Khalifa Haftar. Donc, c'est un militaire, un maréchal à la tête de l'armée nationale libyenne autoproclamée qui, en fait, tient une partie de l'est du pays.
Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple vers la gloire, le progrès et la prospérité.
En deux mots, Haftar, c'est pas tout à fait un débutant. Il a 77 ans, il a un parcours particulier puisqu'il commence aux côtés de Kadhafi, il va même l'aider à prendre le pouvoir, il va prendre du galon même dans l'armée libyenne, jusqu'à ce que finalement Kadhafi lui tourne le dos. Du coup, eh bien, Haftar, il est convoité par les Américains et puis il va même aller se réfugier aux États-Unis et pas n'importe où puisqu'il va habiter près de 20 ans, donc à quelques kilomètres de l'Anglais. Donc,
l'Anglais, le siège, en Virginie.
Voilà, de la CIA. Donc, c'est un long partenariat entre Haftar et les renseignements américains. Pendant ce temps, il fourbit ses armes. Et quand la révolution commence en 2011, il retourne dans son fief à Benghazi, dans l'est de la Libye, pour mener la bataille. Et lors de ces combats, eh bien, il est accusé d'avoir commis des crimes de guerre. Donc, tu vois, le CV du premier candidat, pas forcément brillant.
On va reparler du maréchal Haftar, Charlotte, et notamment de ses liens avec Paris. Mais d'abord, voici un deuxième candidat controversé.
Le premier ministre libyen par intérim dépose sa candidature à l'élection présidentielle, bien que les lois électorales en vigueur en Libye lui interdisent en effet de se présenter. Abdulhamid Beyba a officiellement annoncé sa demande dimanche, un jour avant la date limite de dépôt des candidatures.
Lui, c'est l'actuel Premier ministre par intérim. Il a été désigné en février dernier, à l'issue d'un long processus. En fait, il a été désigné par un forum de 75 délégués libyens sous le parrainage de l'ONU. C'est un businessman richissime, il est réputé proche de la Turquie. Et alors, le point commun qu'il a avec les deux précédents candidats, c'est que, bon, dans un monde à peu près normal, il ne devrait pas pouvoir se présenter à cette élection.
Et pourquoi ça ?
Eh bien, un, parce que d'abord, c'était le deal. Lorsqu'il a été désigné, il devait mener le pays vers la transition. Et il avait promis, juré, craché qu'il ne se présenterait pas. Et puis deux, c'est accessoirement la loi électorale qui prévoit que pour être candidat, il faut être suspendu de ses fonctions au moins 3 mois à l'avance, ce que Dbeibah n'a jamais fait.
2 candidats officiels, et tu nous disais, Charlotte, qu'il y en a un troisième qui inquiète au plus haut point. Et sa candidature vient d'être rejetée par la commission électorale libyenne.
Oui, c'est Saif al-Islam Kadhafi. Alors, son nom te dit sûrement quelque chose.
Oui, le fils d'eux.
Voilà, c'est le deuxième fils de Muammar Kadhafi. Il a longtemps, d'ailleurs, été considéré comme son héritier. Il fait partie, tu l'as dit, des 25 candidatures qui ont été rejetées, mais il a fait appel. Alors, pour rappel, cet homme de 49 ans est un peu un revenant sur la scène politique libyenne, puisque ces 10 dernières années, il était en prison, puis en résidence surveillée. De très lourdes charges pèsent contre lui. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité pendant la répression du régime kadhafiste contre les révolutionnaires. C'est lui qui, en février 2011, disait à la télévision libyenne « il y aura des rivières de sang en Libye ». Pour ça, il est recherché par la Cour pénale internationale.
C'est métamorphosé. Vêtu d'un habit traditionnel et d'un turban bédouin comme le faisait son père, que Saif al-Islam Kadhafi est réapparu aux yeux du monde. Il signe des documents qui font de lui un candidat à l'élection présidentielle libyenne prévue en décembre, avant de conclure par un verset coranique.
Et puis une dernière chose sur ce personnage quand même assez atypique, c'est lui, Saif al-Islam, rappelle-toi, qui avait jeté un pavé dans la mare en affirmant que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 avait été financée en Libye. Et si on en parle aujourd'hui, malgré donc le rejet de sa candidature, c'est d'abord parce que, je l'ai dit, les jeux restent ouverts, il a fait appel. Et surtout parce que cet homme, par ses réseaux, par le poids qu'il a encore en Libye, il a encore un pouvoir de nuisance fort. D'ailleurs, comme les deux premiers candidats, ce qui veut dire que ces candidats, en fait, concourent ou non, ils ont le pouvoir de faire dérailler ce processus.
En entendant ta galerie de portraits, Charlotte, on comprend mieux pourquoi l'élection s'annonce vraiment tendue.
Oui, parce que ces candidats, en fait, sont des véritables bombes à retardement. Leur candidature, comme tu l'imagines, ne fait pas du tout l'unanimité. D'ailleurs, il y a eu des manifestations il y a quelques jours dans l'ouest libyen contre les candidatures de Haftar et du fils Kadhafi. On a vu leurs portraits piétinés. Et puis, si l'on dézoome un petit peu pour regarder plus généralement le processus qui s'annonce en Libye, on s'aperçoit que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe mal, en gros. Un, la loi électorale ne fait pas du tout consensus. Elle a été adoptée sans être votée par le Parlement à l'Est, donc elle est très critiquée. Deux, c'est un pays qui n'a toujours pas d'armée unifiée, pas de système de justice fiable et encore moins de médias indépendants. Et pour toutes ces raisons, et bien sûr pour des raisons de sécurité, il n'y aura probablement pas d'observateurs indépendants à cette élection. Donc tu vois, c'est un cocktail quand même assez dangereux. Et ça, c'est encore dans l'hypothèse où l'élection se tient, ce qui n'est pas du tout certain.
Parce qu'elle pourrait ne pas avoir lieu.
Et oui, il y a de plus en plus d'experts, d'observateurs qui en doutent. Les législatives déjà prévues le 24 décembre aussi, là, on sait déjà qu'elles sont reportées. Il faut savoir qu'il y a une très, très grosse pression internationale pour que cette élection présidentielle se tienne en temps et en heure. C'était tout l'objectif de la conférence de Paris sur la Libye qui a été organisée le 12 novembre dernier. Tout simplement parce que après 10 ans de chaos, d'échecs à faire avancer cette transition vers une démocratie, cette élection, c'est un peu le dernier totem, la dernière chance de dire que si, quand même, on a un petit peu réussi quelque chose en Libye. En gros, on se dit que c'est mieux que rien, sauf que vous avez aussi beaucoup de gens qui alertent pour dire « attention, faites une élection le 24 ». Vous aurez la guerre le 25.
Une élection qui pourrait donc mettre le feu aux poudres. On est très loin des promesses de Nicolas Sarkozy, car entre-temps, rien ne s'est passé comme prévu.
Leur dernière victoire, leur dernier trophée. Sur cette vidéo, des combattants du Conseil national de transition libyen piétinent la dépouille de Muammar Kadhafi. Les images sont d'une rare violence, couvert de sang tuméfié et pourtant reconnaissable entre mille. Nous ne vous montrerons que la photographie du visage du dictateur.
On remonte un peu le temps, Charlotte. Nous sommes en 2011, quelques semaines après le discours de Benghazi qu'on a entendu au début de ce podcast. Muammar Kadhafi est traqué par les rebelles, avec le soutien de l'OTAN, jusque dans son fief de Sirte, dans le nord de la Libye. La scène est très violente, on vient de l'entendre. Que se passe-t-il ensuite ?
Eh bien, il y a un vent de liberté quand même qui souffle, un peu d'espoir avec cette révolution qui, on pense à l'époque, va pouvoir déboucher sur quelque chose. Mais en fait, bon, le pays d'abord va sortir très vite des radars de l'actualité et en fait la Libye va jamais vraiment réussir à s'unir. Il faut pas oublier que c'est quand même un pays qui est avant tout un agrégat de tribus. Tout ce monde-là, si je puis dire, était tenu par Muammar Kadhafi, mais à sa disparition, eh bien, c'est très difficile de trouver une unité. Les rebelles n'ont toujours pas rendu les armes. On a un pays donc qui est extrêmement morcelé, divisé. Et conséquence de tout cela, on a deux autorités concurrentes qui se font face. L'une à Tripoli, à l'ouest, où l'ONU essaye péniblement d'installer un gouvernement. Et une autre à l'est, qui est un parlement concurrent, dont le bras armé est le maréchal Haftar. Malgré tout ça, les négociations se poursuivent, mais ça patine.
Autour de la table, des représentants des parlements rivaux, celui de Tripoli et celui basé à Tobrouk, dans l'est du pays, qui est reconnu par la communauté internationale.
On retrouve donc le maréchal Haftar, aujourd'hui candidat à la présidence de la Libye. Mais avant les urnes, il essaye de conquérir le pouvoir sur tout le pays par les armes, Charlotte.
Et oui, parce que le maréchal, c'est avant tout un militaire, un grand admirateur de Napoléon avec un ego surdimensionné et il est absolument persuadé qu'il va pouvoir conquérir Tripoli. Sûr de cette force, il va lancer une offensive en avril 2019.
Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme et d'y entrer pacifiquement. Ceux qui jettent leurs armes seront épargnés.
Donc voilà, Haftar se voit en haut de l'affiche. Il pense que l'affaire est dans le sac. En fait, pas du tout. L'offensive va virer à la catastrophe. Elle replonge le pays dans la guerre civile. Et cela ouvre la porte à un acteur étranger qui, aujourd'hui, est devenu incontournable. C'est la Turquie qui va proposer ses services et ses troupes au gouvernement de Tripoli.
Ça, c'est un élément très important pour comprendre la situation en Libye. Charlotte, tu cites la Turquie, mais c'est loin d'être la seule ingérence étrangère.
Ouais, absolument, pour plein de raisons, en fait, parce que la Libye, c'est un territoire stratégique. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder une carte. D'abord, la Libye est en face de l'Italie et de la Grèce, donc c'est un peu la dernière frontière de l'Europe ou la porte d'entrée vers l'Europe, selon le sens dans lequel on regarde. C'est un corridor important pour les migrants. La plupart d'ailleurs des migrants qui arrivent sur l'île italienne de Lampedusa viennent de Libye. Et si on reprend toujours cette carte, eh bien, on s'aperçoit que les pays frontaliers de la Libye sont à l'ouest l'Algérie, la Tunisie, au sud le Niger et le Tchad, et à l'est le Soudan et l'Égypte. Autant de pays qui regardent de très très près ce qui se passe en Libye. Et enfin, le pays est aussi stratégique en raison du trésor qui se cache sous son sol. C'est évidemment le pétrole, puisque c'est l'un des premiers producteurs d'or noir du monde. Donc pour toutes ces raisons, la Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence où chaque puissance, finalement, en est venue à soutenir son propre candidat.
Alors, qui soutient qui ?
Alors, côté russe, il y avait d'abord les miliciens de Wagner qui étaient plutôt pro-Haftar.
Alors, je t'arrête là, Charlotte, parce que pour nos auditeurs qui auraient raté l'épisode consacré aux activités du groupe Wagner en Afrique, je fouille dans l'armoire à archives et j'en ressors la définition que nous avait donnée Emmanuel Dreyfus, expert de la Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
C'est un groupe de mercenaires proches du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme dont le nom défraie de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigogine. Donc un groupe de mercenaires qui est envoyé dans des zones dans lesquelles la Russie entend défendre ou renforcer son influence.
Donc Charlotte, tu nous disais que ces mercenaires russes soutenaient le maréchal Haftar.
Et oui, mais tout n'est pas si simple, Xavier. Déjà parce que depuis la débâcle d'Haftar, les Russes ont un peu pris leur distance. Et puis parce qu'il y a un autre clan dont Moscou est historiquement proche, c'est le clan Kadhafi. Et donc il semblerait que les Russes soient plutôt derrière Saïf al-Islam Kadhafi. Haftar, quant à lui, est parrainé par les Émirats et l'Égypte qui n'ont jamais vraiment caché leur préférence pour les hommes forts. Et puis, il a eu un autre soutien important, mais un petit peu plus discret, c'est celui de la France.
Autant de parrains qui peuvent avoir une influence sur cette élection déjà extrêmement tendue. Je rappelle que la candidature du fils Kadhafi a été rejetée à ce stade. Vous commencez aussi à vous dire que le nom de la France revient souvent dans le dossier libyen et que son rôle n'est pas toujours très clair.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pendant ces années-là, il y a un épisode qui va beaucoup embarrasser l'Élysée et qui dit toute l'ambivalence française en Libye. On est à l'été 2016. La Libye, on l'a dit, est coupée en deux entre l'Ouest et l'Est. Et officiellement, la France soutient le gouvernement d'union nationale à Tripoli, tout comme l'ONU. Donc jusque-là, c'est à peu près clair. En face, à l'Est, combattent les troupes du maréchal Haftar. Mais tout bascule le 20 juillet 2016. On apprend qu'un hélicoptère de l'armée nationale libyenne, donc d'Haftar, s'est écrasé. Et là, stupeur, on s'aperçoit que cet hélico transportait des militaires français, de la DGSE, donc des renseignements français. Donc François Hollande, contraint et forcé, est obligé de reconnaître que oui, la France est aux côtés d'Haftar.
La Libye, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement des côtes européennes. Et en ce moment même, nous menons des opérations périlleuses de renseignement. Trois de nos soldats, qui étaient justement dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Je leur rends hommage aujourd'hui devant vous.
Si je te suis bien, Charlotte, ça veut dire que dès 2016, 5 ans à peine après le discours de Nicolas Sarkozy, la France en fait soutenait en sous-main le maréchal Haftar dans l'est du pays, contrairement à l'ONU.
Alors, comme tu l'imagines, ça a suscité un tollé général. En agissant comme ça, la France s'est pas fait beaucoup d'amis. Même dans l'entourage du président Macron, on admet encore aujourd'hui que la France a longtemps été un état paria sur la Libye à cause de ça. Mais bon, une fois le poteau rose découvert, l'Élysée a quand même décidé de tenter de capitaliser sur cette relation privilégiée avec le maréchal. Et donc, le palais va inviter, dans le plus grand secret, sans prévenir ses partenaires européens, le maréchal Haftar à une conférence sur la Libye. Donc, la première est en 2017 à la Selle Saint-Cloud. L'argument est simple, du côté de l'Élysée, c'est de dire, après tout, le maréchal contrôle une partie importante du territoire. C'est un acteur de premier plan et donc il faut aussi le mettre à la table des négociations avec le Premier ministre parrainé par l'ONU. Donc, première tentative en 2017, seconde tentative en 2018 à Paris. Dans les deux cas, ça donne pas grand-chose. Mais bon, il s'agit pour la France, en fait, de se racheter une légitimité sur ce dossier. Mais à Paris, on assure qu'on ne soutient plus Haftar. Sauf qu'en 2019, nouvel épisode, on découvre 4 missiles Javelin appartenant à l'armée française, 150 000 euros pièce quand même, et ils sont retrouvés dans une cache de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar.
Donc celle du maréchal Haftar, si je suis bien.
Absolument, et voilà, la France, bon, là encore, branle-bas de combat, affirme que bon, ces missiles étaient uniquement destinés à protéger ces éléments qui font du contre-terrorisme dans la région, mais bon, en fait, on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire.
On voit que le rôle de la France auprès du maréchal Haftar reste donc assez trouble, mais quel serait l'intérêt de Paris à le soutenir ?
Le maréchal, je l'ai dit, il contrôle une partie de l'est du pays, mais aussi de la frontière sud. Donc, si l'on reprend la carte dont je parlais tout à l'heure, on se souvient qu'au sud de la Libye, on a le Niger et le Tchad. Bref, le Sahel, où la France combat les groupes terroristes avec son opération Barkhane. Donc, cette frontière sud de la Libye, dans la région qu'on appelle le Fezzan, c'est un peu une épée de Damoclès sur la tête de Barkhane. Et c'est pour ça que la France a misé sur le gendarme Haftar pour contrôler cette frontière, avec plus ou moins de succès. Par ailleurs, Haftar et ses milices contrôlent une très grande partie des champs pétroliers du pays, donc Voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur l'intérêt que ça peut représenter. Et puis, troisième raison qui peut expliquer le soutien français à Haftar, c'est le partenariat stratégique de Paris avec deux pays incontournables, l'Égypte et les Émirats. Je l'ai déjà dit, ce sont les parrains du maréchal. Donc l'Élysée ne peut pas se passer de ces deux alliés qui sont deux énormes clients de vente d'armes de la France. L'Égypte est le quatrième client et les Émirats le cinquième.
Les épisodes que tu nous as racontés remontent désormais à quelques années. Là, on est à moins d'un mois de la date prévue de l'élection. Quelle est aujourd'hui la position de la France ?
Alors, aujourd'hui, la France dit que elle est un agent neutre, si je puis dire. Les liens entre la France et Haftar demeurent quand même pas forcément clairs. Et les proches du dossier disent bien que de toute façon, quand bien même il y aurait des hommes de la DGSE encore sur place, on ne le saurait pas puisqu'il s'agit d'opérations clandestines et secrètes. Ce qui est sûr, c'est que 10 ans après les scènes de liesse qu'on entendait tout à l'heure en 2011, l'image de la France est très très écornée sur place. Et aussi pour une autre raison, c'est que la mort, la chute de Kadhafi a libéré tout un tas de milices qui aujourd'hui contribuent au chaos dans le Sahel.
On est bien loin donc des drapeaux français sur les affiches que je décrivais en introduction. Merci beaucoup Charlotte, on fera à nouveau appel à toi quand on en saura un peu plus sur l'avenir politique de la Libye.
Merci, à bientôt.
Si vous avez tout compris à l'épineux dossier libyen grâce à Charlotte Lalanne du service Monde de l'Express, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de vous abonner à notre offre numérique pour pouvoir lire toutes ces analyses. C'est gratuit le premier mois, rendez-vous sur le site de l'Express. Et le second, pour ne rater aucun de nos podcasts de décryptage, c'est de suivre La Loupe sur votre application préférée, Deezer, Spotify ou Castbox. Par exemple, cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.